Il y a beaucoup de joie dans nos cœurs ce matin. La joie, par exemple, d'être présent à ce culte ensemble pour nous tourner vers notre Dieu sous son regard, mais aussi pour accompagner Olivier. La joie d'être les témoins de ce que Dieu a commencé de faire dans sa vie, les témoins de son engagement devant nous ce matin. La joie aussi et surtout pour ceux qui ont vécu cela, de pouvoir connaître notre Dieu, de connaître son salut en Jésus-Christ, de connaître son amour en Jésus, son Fils. Et cette joie, est, que j'ai déclinée de quelques manières, mais ce n'est pas exhaustif, je vous invite à la chanter maintenant, avec un cantique qui swing un petit peu, pour cet immense bonheur. Et nous nous levons, si vous voulez bien, pour chanter.
Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Oui, Jésus est mon sauveur, alléluia. Je le redirai encore, alléluia. Que pour moi, Jésus est mort, alléluia. Voilà pourquoi je l'adore, alléluia. Lui seul est tout mon trésor, alléluia. Que chaque jour à chaque heure, alléluia. En moi tu es ta demeure, alléluia. Soit une fleur, alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur, alléluia.
Merci de prendre place. Nous venons d'être les témoins du baptême d'Olivier. Et j'aimerais dire brièvement quelques mots sur le sens du baptême. Quel est le sens du baptême? Pourquoi se fait-on encore baptiser en 2018? Avant de dire le sens du baptême, j'aimerais rapidement rappeler le pourquoi du baptême. Pourquoi l'Église de Jésus-Christ baptise-t-elle? Pourquoi des hommes et des femmes se font-ils baptiser? Nous baptisons dans l'Église et nous nous faisons baptiser parce que Jésus a demandé à ses disciples de le faire. Avant de les quitter, alors qu'ils s'apprêtaient à les quitter, Jésus a dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » C'est aussi simple que cela, nous pratiquons le baptême parce que telle est la volonté de celui qui donne le sens, du sens au baptême. Nous pratiquons le baptême parce que Jésus a demandé à ses disciples de le faire. Très bien. Mais dans quel but? Pourquoi faire? Quelle est la signification de l'acte lui-même du baptême? Et j'aimerais très rapidement le définir en prenant trois angles. Le premier, le baptême est premièrement un acte d'obéissance. C'est ce que je viens d'esquisser. C'est une instruction du Seigneur Jésus, nous venons de le dire, laissée à ses disciples. Et par conséquent, celui qui se fait baptiser le fait avant tout en obéissance à cette parole, à cette volonté de Jésus. Permettez-moi de préciser ici les personnes qui sont concernées par ce dont nous parlons, par ces instructions de Jésus. En d'autres mots, pour qui est le baptême ? Conformément aux paroles de Jésus, le baptême est pour ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Ce sont les disciples qui sont baptisés. Le baptême que nous pratiquons est donc le baptême des croyants, le baptême de celles et ceux qui ont professé et qui peuvent professer leur foi en Jésus. Il n'y a donc rien de magique dans le baptême. Le baptême ne fait de personne un enfant de Dieu, un disciple de Jésus, un croyant. Mais c'est parce que je suis devenu croyant, parce que j'ai mis ma foi en Jésus, que je vais vouloir vivre en obéissance aux paroles de celui qui est mon Sauveur et mon Seigneur. Le baptême ne sauve personne, il ne confère de lui-même aucune grâce qui serait reçue par l'acte du baptême lui-même. Et c'est la raison pour laquelle nous ne parlons pas de sacrement quand nous parlons du baptême. C'est la raison pour laquelle nous ne baptisons pas les petits-enfants, parce que nous ne croyons pas que le baptême peut sauver quiconque. Le baptême est pour le disciple, pour celui qui est déjà sauvé par la foi, pour celle ou celui qui a mis personnellement sa foi en Jésus. Peut-être êtes-vous disciple de Jésus depuis peu ou depuis longtemps, mais sans avoir jamais fait cette démarche du baptême. Et j'aimerais vous poser directement cette question, pourquoi ne pas l'envisager ? Pourquoi, si vous désirez suivre le Seigneur, ne pas répondre à son appel au baptême ? Pourquoi ne pas lui obéir ? Le jour de la Pentecôte, de la première Pentecôte, dans le livre des Actes, nous lisons que 3000 personnes, suite à la prédication de l'apôtre Pierre, ont été touchées par ce qu'elles ont entendu, et elles ont demandé à Pierre et aux apôtres ceci, « Frères, que devons-nous faire ?» Et Pierre leur a répondu, « Repentez-vous. Et que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. » Et nous lisons encore un petit peu plus loin dans ce même livre des Actes et dans le même chapitre 2, « Ceux qui accueillirent sa parole reçurent le baptême. En ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées à l'Église, bien évidemment. » Sur le chemin de l'obéissance au Christ, le baptême trouve toute sa place. Et je serai heureux d'en parler avec vous si vous le souhaitez. Le baptême est donc avant tout un acte d'obéissance personnelle du disciple de Jésus à son maître. Ça, c'est la motivation du baptême. Maintenant, quel est son sens ? Quel est le sens de ce plongeon dans l'eau ce matin auquel nous avons assisté ? Ça nous amène au deuxième angle, au deuxième point que je voulais rapidement développer avec vous. Le baptême est deuxièmement un symbole, et rien d'autre qu'un symbole. Et essentiellement le symbole de deux réalités. Le baptême symbolise premièrement l'union ou l'attachement du disciple à son Sauveur et Seigneur, à sa conversion. Quand quelqu'un croit par la foi, met sa confiance en Jésus, en ce que Jésus a fait pour le salut, à ce moment-là, il y a une réalité spirituelle qui se passe et qui nous dépasse. Le croyant est uni spirituellement à Jésus-Christ, à son Sauveur et à son Seigneur. Et il est uni à lui dans sa mort et dans sa résurrection. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que parce qu'il a mis sa confiance, sa foi en Christ et en son œuvre, le chrétien est au bénéfice de tout ce que Christ a accompli pour lui. De telle manière que quand Christ est mort, je suis mort avec lui à mes péchés. Et de telle manière que quand Christ est ressuscité des morts, je suis ressuscité avec lui à une vie nouvelle. Le baptême par immersion, il y a toutes sortes de baptêmes qui existent, symbolise cette union, cette réalité, l'union dans la mort et dans la résurrection du Christ, qui sont symboliquement représentés par l'ensevelissement sous l'eau, je suis mort et je ressuscite à une nouvelle vie. C'est la raison pour laquelle le mode de l'immersion est le mode qui convient le mieux pour décrire cette réalité spirituelle, et c'est la raison pour laquelle nous pratiquons, à la suite des premiers apôtres de Jean-Baptiste et puis des premiers chrétiens, le baptême par immersion. Symbole donc de cette union, de cet attachement au Christ, et puis symbole de la purification des péchés, tout simplement. Au moyen de l'eau, et on comprend tous cette image, le baptême symbolise le lavage, la purification des péchés que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Celui qui met sa foi en l'œuvre de Jésus reçoit le pardon de ses péchés, la purification de ses péchés. Et le baptême d'eau symbolise ce lavage et cette purification. Et il le fait aux yeux de tous, de nous tous qui étions témoins ce matin. Et cette phrase « aux yeux de tous » m'amène à mon dernier point. Le baptême est aussi un témoignage. En tant que symbole, le baptême traduit de façon visible une réalité spirituelle invisible. Et le baptême va représenter aux yeux de tous ce qui s'est passé dans le cœur d'Olivier, ce qui s'est passé au moment où il a ouvert son cœur à Jésus-Christ, le moment où il a mis sa foi, sa confiance en Jésus pour être son sauveur et son Seigneur. Et en passant par les eaux du baptême, Olivier a rendu témoignage de ce que Dieu, par Jésus, a commencé de faire dans sa vie. Il est au début du chemin, même si ça fait déjà quelques années. Il est au début du chemin, déjà bien des choses sont acquises et ont été comprises, mais il en reste d'autres. Il a rendu témoignage de sa foi en Jésus, de son salut en Jésus, par Jésus, de son union, nous l'avons dit, à Jésus dans sa mort et dans sa résurrection, de la purification de ses péchés, de la vie nouvelle qu'il a trouvé en Jésus, et de son désir maintenant de vivre en conformité avec cette vie nouvelle. Qui dit témoignage dit témoin. En passant par les eaux du baptême devant nous, Olivier a rendu témoignage devant chacun de nous, et il a fait de chacun de nous ici présents ses témoins, les témoins de son engagement, les témoins de sa foi, les témoins de ce que Dieu a fait dans sa vie. Le baptême est donc aussi une forme d'engagement. Un engagement à vivre en conformité à la vie nouvelle que le Christ donne. Un engagement qui est pris devant témoins et qui est pris aussi devant Dieu. Tout le Nouveau Testament présente la foi comme un engagement résolu à suivre le Seigneur et à le servir. Et le baptême, si on voulait trouver une image, est un petit peu comme la signature que le croyant va mettre en bas du contrat, d'une certaine manière. Et dans cette même pensée, l'apôtre Pierre va parler dans sa première épître au chapitre 3 du baptême comme de l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Oui, le baptême est un engagement envers Dieu, mais aussi envers l'Église. Si les membres, si Olivier est membre du corps de Christ, depuis le moment où il a mis sa foi et où il a été uni à Christ par la foi, il le devient d'une certaine manière visiblement aujourd'hui devant nous. Son baptême dit son témoignage et son attachement à Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons, à la suite aussi de ce que nous trouvons dans l'Écriture, nous faisons coïncider l'entrée, l'admission officielle dans l'Église avec le baptême. Le baptême est un engagement d'Olivier envers l'Église, mais aussi de l'Église envers Olivier. Cet engagement n'est pas à sens unique. Nous aussi, nous sommes de fait engagés puisque nous étions témoins. Je dis nous en parlant de celles et ceux qui sont déjà membres du corps de Christ. Nous sommes engagés ce matin à cheminer aux côtés d'Olivier comme lui est engagé à cheminer à nos côtés. Nous sommes engagés à être solidaires de lui, de ses joies, de ses peines, comme lui est engagé à être solidaire des nôtres. Nous sommes engagés envers lui comme lui envers l'Église. Que le Seigneur nous aide chacun à vivre au mieux notre engagement réciproque. Quel est le sens du baptême ? C'est un acte d'obéissance. C'est un acte symbolique de notre union à Christ et de la purification de nos péchés. Et puis c'est un témoignage de notre foi. Amen. Le baptême et la foi, comme nous venons de l'entendre, sont, j'espère que vous l'avez tous bien compris, étroitement liés. Et avant de partager encore quelques mots, brièvement, de méditation, j'aimerais que nous chantions un chant qui nous invite à confesser notre foi en Jésus, si c'est le cas. Et j'aimerais dire pour celles et ceux pour qui ce n'est pas le cas, que Dieu nous invite toujours et qu'il veut nous aider à croire en lui. J'aime beaucoup cette parole dans l'évangile de ce soldat romain qui dit « Viens au secours, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à croire et nous pouvons le lui demander. Je vous invite à chanter « Je crois en Jésus ».
Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici. Et je crois qu'il est ici. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir.
Tout puissant pour nous guérir.
Et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là.
Et je crois que tu es là.
Présent au milieu de nous. Tout puissant pour
tout puissant pour nous guérir,
et par ta grâce nous pardonner.
Je vous invite à prendre place. J'aimerais lire avec vous quelques versets du chapitre 4 d'un livre de l'Ancien Testament, le livre de Josué. Lorsque toute la nation est achevée de traverser le Jourdain, l'Éternel, Dieu, dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez la nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des Israélites, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont, demain, que sont ces pierres pour vous ? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. » Encore quelques versets. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné, ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurent jusqu'à aujourd'hui. Les sacrificateurs qui portaient l'arche continuaient à se tenir au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné à Josué de dire au peuple selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Alors, c'est un peu long la lecture, mais c'était pour que vous ayez bien le contexte. Le peuple, alors ça c'est à la fin du chapitre, j'ai sauté quelques versets. Le peuple remonta du Jourdain le 10e jour du premier mois, et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Ces 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain, Josué les dressa à Gilgal. Il dit aux Israélites, « Lorsque demain vos fils demanderont à leur père, « Que sont ces pierres ?» Vous en instruirez vos fils et vous direz, « Israël a traversé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous le cours du Jourdain jusqu'à ce que vous ayez passé comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait à la mer des joncs qu'il avait mis à sec devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. C'est afin que tous les peuples de la terre connaissent que la main de l'Éternel est une main puissante, et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. » Voilà, j'arrête là pour ce qui est de la lecture. Le peuple d'Israël vient de passer 40 années dans le désert. Toute une génération est morte dans le désert, sans pouvoir entrer dans le pays qui leur avait été promis. Mais maintenant, le grand jour est enfin arrivé. Et aujourd'hui, et le Jourdain marque la frontière de ce pays, aujourd'hui, le peuple traverse le Jourdain et entre dans le pays qui lui a été promis. Le peuple vient de traverser, nous l'avons lu, et les sacrificateurs qui portent l'arche sont encore au milieu du Jourdain, à sec, puisque quelque chose de miraculeux s'est produit, quand Dieu parle à Josué. Et Dieu lui demande que des pierres soient ramassées du milieu du Jourdain et soient érigées. 12 pierres au milieu du camp, pardon, au milieu du Jourdain, et 12 pierres sont emmenées dans le camp pour être ensuite érigé dans un lieu qui s'appelle Gilgal. Alors à quoi ça rime tout ça? C'est quand même un peu étrange comme récit. Pourquoi une telle demande de Dieu? Dans quel but? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose de mieux à faire dans ce jour si important, ce jour historique, que de ramasser des cailloux pour faire un petit tas avec? Le sens, je ne sais pas si vous l'avez bien capté à la lecture, le sens nous est clairement donné au chapitre 4, donc au verset 6 et 7, et puis répété à la fin du chapitre. Lorsque vos fils vous demanderont demain « Que sont ces pierres pour vous ?» vous leur direz « C'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial à jamais. » Ces pierres serviront de mémorial à jamais. Un mémorial, c'est important. On a eu le bonheur de pouvoir passer quelques jours de vacances en Bretagne, et on a fait un saut vers les plages du débarquement. Et alors là, il y en a, hein, des mémorials, ça se succède. Et c'est saisissant quand on prend le temps de lire et on se rappelle effectivement ce que représente ce monument qui est là, les vies qui ont été données en l'occurrence. La fonction du mémorial est de préserver, de perpétuer la mémoire d'un événement ou d'une personne. Et les pierres que le peuple devait ramasser dans le Jourdain allaient avoir cette fonction d'aide-mémoire, d'aide à la mémoire. Ces pierres allaient permettre de rappeler à la jeune génération qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais aussi aux anciens, et puis même à toutes les nations, dit le verset 24 de ce chapitre, rappeler que la main de Dieu est une main puissante qui avait délivré son peuple, qui l'avait fait entrer dans le pays en fendant les eaux du Jourdain, rappeler et susciter le respect et la crainte de Dieu. Et la question que nous pourrions nous poser ici est la suivante. Mais était-ce vraiment nécessaire de faire tout ce cirque, pour dire les choses simplement, d'ériger un mémorial pour se souvenir, parce qu'on ne pouvait pas se souvenir autrement? Il y a des choses qui ne s'oublient pas. Comment oublier qu'on a traversé le Jourdain à sec? Comment oublier que Dieu est intervenu miraculeusement pour moi, pour nous, ce jour-là? Comment oublier quand Dieu agit en notre faveur? Certainement que le peuple n'avait pas besoin de ce nœud dans son mouchoir pour se souvenir de ce que Dieu était en train de faire pour eux à ce moment-là. Mais la réalité est tout autre. La réalité, c'est que nous oublions. Nous sommes des êtres oublieux. Nous oublions facilement les choses, même celles que nous pensons ne jamais oublier. Et prenez ce même peuple d'Israël. Dieu venait, il y a quelques années, de les délivrer. Enfin, pour la génération qu'il a vécue, il venait de les délivrer. Miraculeusement de l'Égypte, on connaît ou on ne connaît pas ce récit, mais il y a quand même les 10 commandements, il y a beaucoup de choses qui ont été faites autour de la sortie de l'Égypte du peuple d'Israël, et on a tous une image en tête de ces choses-là. Et Dieu a utilisé de grands prodiges pour délivrer son peuple. Et on se dit, ils ne vont jamais oublier. Ce n'est pas possible. Comment peut-on oublier quand Dieu libère après 400 ans d'esclavage, quand Dieu ouvre la mer, quand Dieu donne miraculeusement de la nourriture à son peuple dans le désert? Ils ne vont pas oublier. Impossible. Que s'est-il passé quand ils arrivent, cette première génération, quelques jours après ou quelques semaines après, quand ils arrivent devant le Jourdain et qu'ils envoient des espions dans le pays promis pour voir la situation? Ces espions reviennent parce qu'ils ont vu des villes fortifiées, des gens très grands, etc. Et le peuple se met à pleurer toute la nuit, nous dit le texte. Ils se mettent à murmurer contre Aaron et Moïse, les leaders du peuple. Et même, ils se mettent à regretter de ne pas être mort dans le désert, de ne pas être mort en Égypte. Et c'est inconcevable, ils veulent retourner en Égypte. Ils ne veulent plus traverser le Jourdain, ils ont tout oublié. L'être humain, vous, moi, nous sommes enclins à l'oubli. Et je pense que ça peut se vérifier facilement tous les jours sur nos frigos, les petits post-it, sur les PC, un peu partout, sur le miroir de la salle de bain, pour ne pas oublier, hein, on se met le petit mot qu'il faut, parce que sinon on oublie. Et c'est vrai dans la vie en général, et c'est vrai aussi dans la vie spirituelle. Nous oublions parfois bien vite, trop vite, ce que Dieu a fait pour nous. Bien souvent, nous manquons de mémoire. Et nos agissements, nos manquements, nos peurs, nos craintes, nos doutes, nos murmures le disent avec force que nous avons oublié ce que Dieu a fait dans le passé pour nous. Et nous agissons comme des êtres sans mémoire. Il nous arrive d'oublier. Et c'est la raison pour laquelle Dieu, dans son infinie sagesse, a jugé bon de placer des aides à la mémoire sur notre chemin, sur le chemin de son peuple de l'Ancienne Alliance. Et Dieu leur avait donné ces petits aides-mémoire, et puis un grand aide-mémoire pour se souvenir de la délivrance de l'Égypte, c'est la Pâque. Et par la Pâque, le peuple faisait mémoire de la rédemption, de la délivrance de l'Égypte. Il se souvenait de ce que Dieu avait fait pour lui à ce moment-là. Et c'était d'ailleurs le but de cette cérémonie, de ce rite, de cette fête de la Pâque que nous retrouvons dans le livre de l'Exode. Que signifie pour vous ce rite, hein, lorsque vos fils vous demanderont, verset 27, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Qui a passé par-dessus les maisons des Israélites en Égypte lorsqu'il frappa les Égyptiens et qu'il préserva nos maisons? Le peuple s'inclina et se prosterna. Ça, c'était pour l'Ancien Testament. Mais pour le peuple de la Nouvelle Alliance, maintenant que Jésus est venu, des choses ont changé. Et au peuple de la Nouvelle Alliance, aux chrétiens, Dieu a aussi donné un mémorial, celui de la scène, du repas du Seigneur. Et en partageant le pain et le vin du repas du Seigneur, nous ne faisons rien d'autre que faire mémoire. Nous nous souvenons. Nous nous souvenons, non pas de la délivrance de l'Égypte, mais de notre propre délivrance. Quand nous sommes sortis de notre propre esclavage, celui de notre péché, nous nous souvenons que par le sacrifice de Jésus, nous avons reçu la vie ici-bas déjà, et la vie pour l'éternité. Et nous nous souvenons que par le sang de Christ, par son sacrifice, nous sommes épargnés, nous aussi, de la colère à venir. Je relirai ce texte dans quelques instants quand nous partagerons le repas du Seigneur, mais si vous regardez, à deux fois, il est dit, « Faites ceci en mémoire de moi », à la fin du verset 24 et au verset 25, pour le pain et pour le vin. Nous faisons mémoire et nous en avons bien besoin parce que notre mémoire est parfois bien courte. Et il nous arrive d'oublier. Combien de fois avons-nous expérimenté la bonté de Dieu, sa fidélité, sa présence, son secours, sa protection? Bien des fois, si nous sommes chrétiens. Et pourtant, quand nous avons un nouveau défi à relever, une nouvelle montagne à franchir, une nouvelle épreuve à traverser, que se passe-t-il ? Ben, nous avons oublié, nous doutons, nous avons oublié et nous craignons, nous avons oublié et notre foi défaille. Et qu'il est précieux, qu'il est bon de pouvoir trouver sur notre chemin des lieux et des temps de mémoire. Des lieux qui nous rappellent les bontés de Dieu pour nous, qui nous rappellent que ces bontés ne sont pas épuisées. Des temps qui nous rappellent que les bontés d'hier sont le gage de celles de demain. Oui, il est bon et précieux de trouver sur notre chemin des mémoriaux, des pierres dressées, qui évoquent pour nous le souvenir de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et j'aimerais t'encourager, Olivier, tout particulièrement à faire de ce jour un mémorial dans ta vie, un mémorial sur le chemin de ta foi. J'aimerais t'encourager à considérer ce jour comme une pierre dressée dans ta vie, sur ta route, une pierre du souvenir, souvenir de tout ce que Dieu a été pour toi, tout ce qu'il a déjà fait pour toi jusqu'à ce jour, souvenir du temps béni que nous sommes en train de vivre ce matin, souvenir aussi de l'engagement que tu as pris aujourd'hui devant nous et devant Dieu. J'aimerais t'encourager dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir, à y repenser souvent, à repenser souvent à ce jour, dans les bons comme dans les mauvais jours. Souviens-toi de la bonté de Dieu, de la fidélité de Dieu qui t'a conduit à ce jour de baptême, à ce jour de témoignage. Ce sera une force, indéniablement, dans les jours difficiles. Ce sera aussi un sujet de joie et de reconnaissance dans les jours plus faciles, et en tout cas une grande motivation pour toi à persévérer. Alors oui, ne nous privons pas du souvenir de la bonté de Dieu. Et j'aimerais, après avoir encouragé Olivier, j'aimerais nous encourager chacun ce matin à regarder aux mémoriaux de nos vies, de nos propres vies. Il y a les temps que Dieu institue, la Pâque dans l'Ancienne Alliance, la Sainte Cène dans la Nouvelle Alliance. Et puis, il y a dans chacune de nos vies des pierres dressées. Les miennes ne sont pas les vôtres et les vôtres ne sont pas les miennes, mais elles existent. Et elles marquent et elles rappellent pour nous que là, Dieu est intervenu en notre faveur. Que là, Dieu a agi pour nous. Que là, Dieu nous a délivrés. Que là, il nous a secourus. Que là, nous avons ressenti sa présence. Que là, il nous a consolés. Que là, nous avons compris quelque chose de nouveau de son amour, etc. Oui, faisons des bontés de Dieu. Faisons mémoire, pardon, des bontés de Dieu. Faisons mémoire de tous ses bienfaits. C'est un puissant antidote pour bien des choses. Et il y a un chant, la sonnerie m'annonce que je dois terminer. Voilà. Il y a un chant qui dit tout ça très bien et que je vous invite à chanter maintenant. Compte, c'est vraiment un classique, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Regarde les pierres érigées dans ta vie, tous ces mémoriaux de l'amour et de la bonté des dieux. Et tu verras en adorant combien leur nombre en est grand. Je vous invite à vous lever pour chanter.
Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Oh. répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Prends les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien
de prendre place. Et nous voulons maintenant vivre le temps de l'accueil dans l'église pour Olivier. Je l'ai souligné dans ce que j'ai dit et ce que j'ai partagé avec vous, le baptême marque l'attachement visible du croyant au corps de Christ qu'est l'église. Nous l'avons lu dans le livre des Actes, que ceux qui étaient baptisés étaient ajoutés à l'église. Et c'est ce que nous voulons faire maintenant, et nous voulons prendre simplement le temps de remettre Olivier dans la prière. Le baptême est un aboutissement d'une certaine manière, il y a un cheminement qui y conduit, il y a un temps de préparation, mais c'est le début après d'une nouvelle étape, donc c'est certainement pas la fin de tout. Et nous voulons demander à Dieu des forces renouvelées pour Olivier et toutes les grâces nécessaires pour continuer son chemin. Et je demanderai à Olivier de venir devant et aussi à Albert, qui est ancien dans l'église, pour prier avec lui.
Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te remercions de tout notre cœur pour le témoignage que nous venons d'entendre aujourd'hui et pour l'œuvre de ta grâce dans le cœur d'Olivier. Nous te remercions, Seigneur, d'être venu le rejoindre sur son chemin, de t'être révélé à lui, de l'avoir attiré à toi, de lui avoir donné la foi. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons ensemble nous confier en toi pour le chemin qui est maintenant devant nous. Merci de la communion au sein de l'Église. Merci de pouvoir nous édifier les uns les autres. Merci de pouvoir nous apporter des éléments de ta connaissance, de les partager et de nous aider ainsi ensemble à grandir en toi. Loué sois-tu, notre Dieu et notre Père, pour cette réalité, pour ta parole, pour ton esprit. Nous te confions tout particulièrement Olivier, en te priant de le bénir personnellement, de le bénir dans tous les aspects de sa vie, de ses relations. Nous te le confions, Seigneur, et nous te prions de faire qu'il soit pour nous un sujet d'édification, comme nous te prions de nous aider à l'être pour lui. Qu'ensemble, nous puissions nous édifier dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ notre Sauveur. Amen.
Olivier, bienvenue dans l'Église. Après déjà 10 ans, hein, il était temps, mais on est très heureux. Très heureux, et je voulais te donner un petit souvenir de nos discussions, un peu de grain à moudre, pour prolonger certaines des discussions qu'on a eues, et on pourra continuer, je l'espère, en tout cas avec beaucoup de plaisir. Sois le bienvenu. Bon, ça s'applaudit, hein. Voilà, je vous invite à chanter. Alors le culte est un peu plus long que d'habitude, hein, nous en sommes conscients. Pour ceux qui sont habitués, on sait que les cultes de baptême, c'est toujours un petit peu plus long. Nous allons encore avoir la Sainte Cène et après nous aurons terminé notre culte. Et j'aimerais que, pour introduire ce temps de Sainte Cène, que nous chantions un chant qui nous rappelle que c'est en Jésus et en Jésus seul que nous avons tout et tout pleinement. Je vous invite encore à chanter, à vous lever pour cela, et puis j'invite ensuite celles et ceux qui ont mis leur confiance dans l'œuvre de Jésus-Christ pour leur salut à partager le pain et le vin qui circuleront dans les rangs. Chantons.
Mmh.
En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant. Il est mon roc et mon rempart, mon sûr-abri dans l'ouragan. Oh quel amour, quelle paix, par son secours la peur se tait. Mon réconfort, mon plus grand bien, c'est l'âme du Christ qui me tient. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère. Ce don d'amour, de sainteté, il offre à ceux qu'il vient sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Dans le tombeau, l'obscurité, la vie serait-elle étouffée? Quel jour glorieux, ressuscité, Christ la mort a triomphé. Et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans peur, gardé par l'amour du Sauveur. Du premier cri à l'ultime heure, Jésus est maître de mon cœur. Jamais les hommes ou le malin ne vont me ravir de sa main. Et qu'il revienne, qu'il m'appelle, en Christ j'ai la vie éternelle.
Je lis dans l'évangile de Luc au chapitre 22. L'heure venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Il prit une coupe, rendit grâce et dit, prenez ceci et partagez-le entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne jusqu'à ce que vienne le règne de Dieu. Puis il prit du pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, c'est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Il fit de même avec la coupe après dîner en disant, cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang qui est répandue pour vous. Nous l'avons dit, pour nous aider à faire mémoire, le Seigneur a instauré pour nous ce mémorial, cette aide-mémoire, ce pain et ce vin, le pain qui nous rappelle le corps brisé du Seigneur pour nous, ses souffrances, sa mort sur la croix. Le sang, le vin qui nous rappelle le sang versé sur la croix pour nous, sa vie donnée, la nouvelle alliance qu'il est possible maintenant avec Dieu par Jésus-Christ. Et nous voulons, donc conformément à ce que le Seigneur a voulu pour nous maintenant, faire mémoire de ces choses en partageant les éléments. Et nous allons encore prier avant.
Merci.
Je vous invite à terminer ce moment de Sainte Cène avec un chant qui parle de suivre le bon berger. Ce bon berger, c'est bien évidemment une image de Jésus-Christ et nous pouvons tous nous lever pour chanter ce chant. Et pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité de déposer les offrandes dans les boîtes qui circuleront dans les rangs. Chantons.
Conduit quel grand bonheur, je goûte le repos du cœur, car tout sans doute regard me suit, et par la main il me conduit, il me conduit, il me conduit, c'est pour lui seul que je veux vivre. Je me suis le bon berger qui me conduit. Sur moi il veillera toujours. Je peux compter sur son amour. À chaque instant, le jour, la nuit, c'est bien sa main qui me conduit. C'est pour lui seul que je me guide. En vrai disciple, je me suis le bon berger qui me conduit. Comme un rempart, il me défend, il me protège sûrement. Loin de moi, Satan s'enfuit, quand à la main Christ me conduit. Il me conduit, il me conduit, c'est pour lui seul que je veux vivre. En vrai disciple, je me suis le bon berger qui me conduit.
Je vous invite encore à prendre place une dernière fois. Il y a quelques annonces pour la vie de l'Église et pour la journée aussi. Nous aurons un verre de l'amitié qui sera proposé à la fin de ce culte pour prolonger les bons moments que nous venons de passer, faire peut-être connaissance les uns avec les autres et puis aussi une occasion d'entourer Olivier d'une manière toute particulière. Mercredi, nous aurons notre rencontre à 19h, méditation, partage et prière, et dimanche prochain, notre culte aux mêmes horaires avec la reprise de l'école du dimanche. Pour toutes les activités du mois de septembre, la feuille du mois que vous avez peut-être prise en arrivant est disponible et vous retrouverez tout ça et bien d'autres choses encore. Et en particulier, vous trouverez l'essentiel de ce que je vais dire maintenant dans la feuille du mois, mais je vais quand même le dire parce que c'est important, ça arrive très vite. Et il faut que deux, trois choses soient dites. Nous avons notre week-end d'église dans 15 jours. Normalement, nous allons à la source pour cela, dans les Cévennes, à Saint-André-de-Valborgne. Et cette année, nous avons décidé de le faire ici, dans nos locaux, le samedi 15 et le dimanche 16 septembre. Pourquoi ici ? Parce que l'hébergement est limité là-haut. Et puis, c'est vraiment, nous l'espérons, la possibilité pour qu'un plus grand nombre participe à cette rencontre. Le programme est riche et je vous en donne les grandes lignes. Nous commençons samedi à 10h, accueil avec café, et à proprement parler, nous commençons à 10h30 avec un premier temps de réflexion en groupe. Alors, le sujet qui a été retenu est un sujet qui vous intéresse, je l'espère. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Faut-il encore lire l'Ancien Testament ? Parfois, quand on lit l'Ancien Testament, on est un peu déstabilisé. Il y a beaucoup de guerres, il y a beaucoup de choses un peu violentes et on ne s'y retrouve pas trop. Et on se dit, bon, peut-être qu'il n'y a plus de place pour ça et qu'on se contente de lire les Évangiles et le Nouveau Testament. Faut-il encore lire l'Ancien Testament ? Nous allons y réfléchir, un premier temps en groupe, et alors, pour vous encourager tous à venir, un programme pour les enfants est prévu, et une garderie est prévue. Donc, il ne faut pas que ça, ce soit un obstacle à ne pas venir, puisque des temps seront prévus pour les enfants à chaque fois qu'il y a des temps de réflexion.